Europe 1, près de chez vous.
Aujourd'hui, avec nous Delphine Bagary. Bonjour Delphine Bagary.
Bonjour.
Vous êtes députée des Alpes-de-Haute-Provence, médecin urgentiste. Alors on sait que vous avez mis entre parenthèses votre rôle de députée pour vous consacrer pleinement à la lutte contre ce Covid-19. Comment se passe en ce moment une journée de Delphine Bagary?
Alors, j'ai pas mis entre parenthèses mon rôle de députée. J'ai repris depuis début avril un poste en fait à l'hôpital de Manosque en tant que médecin, pas aux urgences. Je suis en unité Covid, donc l'unité qui est spécialement consacrée à la prise en charge des malades du coronavirus, qui sont graves et qui ne peuvent pas rester à domicile, bien entendu, qui doivent être hospitalisés. Et en gros, je travaille 5 jours sur 7 à l'hôpital. Le reste du temps, quand je reviens le soir, je regarde les mails, je réponds à mes collaborateurs parlementaires pour le travail qui reste à faire. Et les jours où effectivement je suis en off, comme aujourd'hui par exemple, je vais un peu plus dans les sujets, je fais des conférences avec d'autres députés. J'ai participé mercredi à la commission développement durable dont je fais partie. Voilà.
Là, en ce moment, évidemment, vous êtes donc à Manosque. Est-ce que, comme pour les hôpitaux des Hautes-Alpes, vous êtes aussi en manque cruel de matériel sur l'hôpital de Manosque?
Écoutez, on n'est pas en manque cruel. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait attention. On prend des mesures anti-gaspillage, on va dire. On fait attention à tout le matériel de protection que nous pouvons avoir, parce qu'on sait que malheureusement, on va avoir des difficultés d'approvisionnement, pas des difficultés budgétaires ou financières. Mmh. Et donc, on s'organise au mieux pour prendre le matériel de protection qu'il faut au moment qu'il faut, essayer de s'organiser un petit peu autrement. Ça demande une organisation, mais c'est faisable. Mmh. Voilà.
Parlons de cette crise sanitaire, alors sans aller faire un procès à l'exécutif, confronté à une crise qui est vraiment inédite, la majorité des Français a quand même le sentiment qu'on navigue un petit peu à vue.
Alors effectivement, on navigue à vue. Pourquoi on navigue à vue? Parce que on est face à une maladie qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas encore trop les mécanismes d'action. On sait qu'effectivement, il y a une phase, 7 jours après le début des symptômes, qui est une phase difficile à passer, qu'on essaye d'analyser d'un point de vue scientifique. Nous tâtonnons aussi bien du côté médical, on le sait, vous avez entendu parler des traitements, vous avez entendu parler de la façon dont il faut aborder cette phase-là critique, s'affoler quand il le faut, quand on respire moins bien notamment. Tout le reste, effectivement, savoir la durée de confinement, à savoir comment on va déconfiner. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se penchent sur le sujet et on n'a pas vraiment, ni au niveau mondial, ni au niveau européen, ni encore en France, de vision globale sur cette sortie-là, aussi bien du côté médical que du côté, on va dire, sociétal pour le déconfinement.
Ouais, selon une étude chinoise qui est sortie ces jours-ci, la meilleure stratégie pour les pays touchés, jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible, consisterait à trouver un point d'équilibre, dit cette étude, entre la reprise des activités économiques et le maintien de mesures de contrôle. Alors on sait, l'Élysée a annoncé depuis hier soir qu'on ira plus loin que le 15 avril en confinement, et ensuite, comme vous le disiez, un déconfinement progressif, mais qu'en sera-t-il? On aura peut-être une réponse lundi prochain avec le président Macron, il va s'exprimer. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention?
Écoutez, moi j'attends en tout cas qu'il nous donne de bonnes nouvelles. On voit bien qu'il y a de moins en moins d'entrées en réanimation et d'admissions de réanimation, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que le confinement finalement marche certainement, puisqu'il y a certainement moins de personnes qui sont infectées. Mais on sait très bien aussi je pense qu'il va nous l'expliquer, que le déconfinement peut faire qu'il y ait une recrudescence de la maladie. Maintenant, si les services de réanimation notamment ne sont pas saturés, les services hospitaliers ne sont pas saturés, on pourra mieux soigner, mieux prendre en charge en tout cas les malades, et notamment les malades graves qui font toute la gravité, la situation anxiogène de cette pathologie.
Une question qui revient en boucle depuis le début du confinement, c'est le manque de masques. Alors la question, c'est à qui la faute? Tout le monde se renvoie la balle, c'est pas moi, c'est l'autre. À qui la faute?
Écoutez, je pense que effectivement, on n'avait pas fait de stock. Peut-être que nous aurions dû faire des stocks. En tout cas, reconstituer les stocks préventifs qui avaient été prévus lors de la grippe H1N1. Qui avait été fait par Roselyne Bachelot, à qui on avait demandé à toutes les entreprises d'en acheter, à toutes les collectivités également. C'est le retour d'expérience qu'on aura après pour le manque de masques.
Oui.
Ensuite, maintenant, je veux dire, comme partout dans le monde, on a tous besoin de masques, il faudra se donner la capacité d'avoir des productions de masques locales plus importantes. Voilà, à un niveau français, évidemment, à un niveau européen, très très certainement.
Je voudrais vous faire écouter un son de Christophe Castaner, qui date du 23 mars dernier. Je vous propose de l'écouter.
Ça n'est pas la culture française et je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes qui, au fond, atteignent la liberté individuelle de chacun pour être efficace. Donc, ça n'est pas un sujet sur lequel nous travaillons.
Donc, ça, c'était il y a quelques jours, le 23 mars, il me semble. On parlait du tracking, hein, vous savez. Mm-hmm. Et il y a quelques jours, nouveau message.
Nous sommes dans un combat qui sera long et difficile. Et toutes les intelligences disponibles sont nécessaires et seront utilisées. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Mais je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et si, évidemment, elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français.
Ça, c'est aussi un sujet que les Français ont du mal à comprendre. Le changement de cap d'une journée sur l'autre ou de quelques jours sur quelques autres, et notamment donc sur ce sujet du tracking. Quel est votre sentiment sur ce tracking?
Écoutez, moi, je me suis exprimée par l'intermédiaire du Tribune là-dessus. Je pense que réellement, c'est une atteinte aux libertés individuelles et je serais très très réservée quant à l'utilisation du tracking. Maintenant, le ministre l'a quand même redit ce matin, le Cédric O, nous a dit qu'il y aurait un débat parlementaire là-dessus. Ça divise fortement les parlementaires et j'espère qu'on n'en arrivera pas à cette solution-là.
Revenons sur le terrain, j'allais dire, des Alpes de Haute-Provence avec les problèmes qui sont rencontrés par la population. J'en ai pris deux, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai pris que deux. Notamment, vous savez, le problème d'approvisionnement des distributeurs automatiques de billets sur notre territoire.
C'est un vrai sujet et un sujet qui, à mon avis, est très grave et important également. Parce que les distributeurs automatiques de billets, de la Poste notamment, sont souvent les seuls points d'argent, d'approvisionnement, enfin en tout cas en liquide, dans certains villages. Et on ne peut pas demander à un moment donné aux citoyens de rester confinés, de ne pas faire de kilomètres inutilement pour ne pas propager le virus ou la maladie et en même temps leur refuser un accès à ce liquide qui leur permet de régler leur achat du quotidien, notamment leur achat pour l'alimentation. Donc j'ai pour ma part avec le sénateur Jean-Yves Roux saisi le président, le PDG de la Poste, Philippe Val, à ce sujet. Avec un courrier aussi à notre ministre Jacqueline Gourault de la cohésion des territoires pour qu'on puisse trouver une solution et que plus aucun distributeur de billets, en tout cas là où on a le plus besoin, c'est-à-dire dans les villages où c'est le seul point d'approvisionnement en argent liquide, que tous ces distributeurs de billets puissent être alimentés, bien entendu.
Et puis l'autre sujet, c'est les petits producteurs locaux. Je veux bien sûr parler des petits marchés. Hein. Il y en a un petit peu moins d'une trentaine qui ont une dérogation sur notre territoire des Alpes de Haute-Provence. Ça aussi, c'est essentiel.
Oui, et notamment c'est essentiel, mais en plus, on voit comment les producteurs se sont dotés de moyens et d'outils de distanciation sociale, de distribution pour pouvoir assurer une façon optimale de ne pas diffuser la maladie. La Chambre d'agriculture, mais aussi tous les syndicats ont distribué des outils de bonnes pratiques pour les producteurs, pour les vendeurs, pour leur expliquer comment faire. Et j'espère que bientôt, tous les marchés pourront réêtre ouverts, et avec responsabilité non seulement pour les acheteurs, mais je sais déjà que les marchands sont eux en grande responsabilité.
Une dernière question, Delphine Vagary. Pour la suite, vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste ?
Je suis de nature très très optimiste, moi. Donc, ce que j'ai remarqué dans cette crise, c'est qu'il y avait un élan de solidarité très très important de la part de tous les citoyens. Chaque citoyen veut se rendre utile à la population de façon générale, de la façon la plus appropriée, selon leurs possibilités. Et moi, du coup, cet élan, on va dire, solidarité, de fraternité, me rend très optimiste pour l'avenir. Je pense qu'on ne verra certainement pas les choses au sortir de la crise. Et je pense que du coup, il y aura peut-être beaucoup plus de fraternité à un niveau local, mais aussi à un niveau, on va dire, supra-territorial.
Il y aura donc un avant et un après, selon vous. Merci à
vous. Je vous en prie.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Alpin, près de chez vous.